Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, c'est un cocktail que nous vous proposons, le Popopop, un cocktail aux couleurs flashy, servi par ma pomme, et pourtant il n'y en a pas, et le normand que je suis le regrette amèrement, même si ces pommes auraient certainement ajouté de l'amertume. Enfin bref, je m'égare, comme souvent. Ce cocktail, il est concocté par une jeune académicienne des Beaux-Arts, Catherine Meurice, qui ajoute un peu de wasabi. Voilà, un peu, pas trop. Car c'est au Japon que nous emmène la dessinatrice avec son dernier album, La jeune femme et la mer. Mais pas de cocktail réussi sans petite ombrelle d'inspiration japonaise. Elle aussi, au passage, cette petite ombrelle qui vient compléter le cocktail, c'est Albin de la Simone qui assurera également la playlist du bar. Alors détendez-vous et sirotez. Le wasabi. Bref, Catherine Meurice et Albin de la Simone sont passés dans Popopop et nous vous remixons tout ça aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour cher Antoine
de Caunes. Peut-être devrais-je dire bonjour Madame l'académicienne.
Oui, je préférerais, en effet. Mm-hmm. Oui, oui. Ça Catherine serait... Meurice, membre de l'Institut.
C'est membre bien, hein, de l'Institut, j'aime bien aussi. Alors, je ne vois pas votre épée à votre côté. Elle a été retenue au portique de Radio France, peut-être.
Non, elle n'est pas encore réalisée, parce que je ne suis pas, toujours pas installée officiellement. Voilà, j'ai été élue, mais pas installée officiellement sous la coupole. Ah. Et ce sera au printemps 2022.
D'accord. Voilà. C'est peut-être votre habit vert qui vous a donné envie d'aller vous mettre au vert aussi au Japon ?
Alors c'est arrivé avant, le Japon est arrivé avant, oui oui, plutôt il y a trois ans, et l'envie de vert, c'est-à-dire que je dessinais l'album Les Grands Espaces, très vert,
très
quand
vert
j'étais au Japon,
ouais.
Voilà, tout. Et, au Japon c'est plutôt un vert bleu, donc les couleurs se sont mélangées assez rapidement, le Poitou des Grands Espaces s'est mélangé au Japon, et ensuite est arrivé à l'Académie.
Et vous
un
êtes...
vert très particulier.
Un vert très particulier, voilà, un peu plus dense,
voilà,
un peu vert jardin.
Un peu vert empire, oui, vert jardin.
Oui, 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 pas mal, pas mal. Et vous aviez effectivement oublié vos pinceaux en partant.
Oui, alors... Oui, en effet, c'est-à-dire que j'ai très peu dessiné au Japon. Je suis restée 4 mois à Kyoto et dans les environs de Kyoto, surtout au sud de l'archipel. Et j'ai surtout emmagasiné des émotions, des sensations. J'ai pris beaucoup de photos, sans savoir que j'allais faire l'album La jeune femme et la mer. Je me suis dit, tiens, et si je prenais en photo ce petit chemin creux? Et ça m'a servi finalement 2 ans après quand j'ai travaillé sur l'album. Et non, j'y avais pas de place pour dessiner. Je crois que je voulais d'abord tout voir, tout ressentir, tout observer. Voilà.
Laisser les choses infuser.
Oui, 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 parce qu'en général, c'est une bonne matière. Ça sert toujours pour faire un livre. À l'origine, il y a quand même des impressions. Oui.
Eh bien, ça donne cet album magnifique, La jeune femme et la mère, chez Dargaud, dont nous allons parler dans cette émission. Mais avant ça, Catherine, quand je vous vois, je pense désormais au Japon et donc au Yellow Magic Orchestra. C'est un groupe japonais, un groupe précurseur dès la fin des années 70 de la musique électronique et au sein duquel officiait le divin Ryuichi Sakamoto. Et le morceau que je vous propose d'écouter en ouverture, c'est leur reprise vraiment très décalée du Day Tripper des Beatles.
What?
Day Tripper live, c'était en 79 sur l'album YMO du Yellow Magic Orchestra, et le morceau qui me fait penser aujourd'hui à Catherine Meurice, c'est celui-là, Catherine qui vient nous parler de La Jeune Femme et la Mer, son nouvel album 100% Nippon. Et puisqu'il est aujourd'hui question du Japon et que j'évoquais ce génial musicien qui est Ryuichi Sakamoto, causons quelques instants, ma chère Catherine, accompagnée du piano de Sakamoto, une de mes musiques préférées sur cette terre. Allez, voilà. C'est parti. Catherine Meurice, vous êtes illustratrice, dessinatrice de presse, auteure de BD, et en 2020, vous êtes donc devenue la première auteure de BD membre de l'Académie des Beaux-Arts, une nomination qui vous a fait pouffer de rire en l'annonçant à vos parents comme si vous aviez fait, dites-vous, la meilleure de vos blagues.
Oui, non, non, mais c'est pas rire, c'est très sérieux.
Hein. Oui, non, mais attendez, voilà, regardez-moi, ne suis-je pas sérieux moi-même.
Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est une mission que j'espère faire de mon mieux, mais non, mais c'est sûr, c'était comme une grosse, pas une grande farce, mais je m'attendais pas du tout. Enfin, bien sûr, j'ai candidaté, faut pas non plus que je raconte d'histoire, hein, mais ça s'est fait très très vite et je pensais pas qu'on viendrait me demander de candidater. Voilà, je pensais pas que l'académie s'intéresserait un jour à la bande dessinée. Et en fait, les académiciens sont très ouverts, très curieux et attendent de pied ferme les autres autrices et auteurs qui viendront un jour nous rejoindre à l'Institut.
Vous avez le sentiment que, voilà, grâce à vous, d'une certaine manière, le 9e art est enfin mieux considéré, mieux représenté auprès de l'Académie des Beaux-Arts, parce que c'est le parrain du prix BD FNAC qui vous pose la question.
Oui, oui. Alors, grâce à moi, enfin, grâce à d'autres auteurs aussi, je crois que l'Académie.
Bon, ça passe par vous, Catherine.
Alors, oui, bon, voilà, il se trouve que, bon, là, il se trouve que ça s'est passé par moi, mais oui, oui, c'est sûr que je me suis réjouie de constater que la bande dessinée était prise au sérieux tout en étant appréciée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est prise au sérieux qu'elle doit devenir solennelle et, donc ça c'était très agréable. Par ailleurs, quand j'ai été élue donc l'an dernier, le perpétuel, le secrétaire perpétuel m'a dit mais oh là là, on est très content de t'avoir, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir Bretéché, Sempé, Rézère. Alors lui, il imaginait voilà des auteurs comme ça. C'était formidable d'entendre voilà cette ouverture d'esprit quoi.
Alors vous me disiez que vous n'aviez pas encore reçu votre épée, donc vous n'avez pas pris.
C'est à moi de la concevoir et de la dessiner ou de faire appel à des créateurs d'épées. C'est
juste... Vous l'imaginez comment, votre épée?
Je ne sais pas, vous avez une idée?
L'épée très fine,
oui.
Avec de la couleur dessus peut-être.
Voilà, qui pique ou pas,
enfin, qui c'est une... pique, oui. Ah bah oui, sinon oui. C'est pas une épée.
Oui, oui, d'accord, non, non. Mais j'ai peur de me blesser en fait. Enfin, je pourrais peut-être concevoir un coup...
Non, mettez une petite boule au bout.
Ah oui, voilà, une petite
patte fixe. Et vous émoussez la lame.
Oui, oui,
bien sûr. Comment imaginez-vous la vie d'académicienne aux côtés des Garoustes, Rougemont et autres Milcans?
Ah, c'est très simple, on se voit, alors quand on peut, on est censé se voir chaque semaine à l'Institut, c'est pas toujours simple, évidemment il y a eu la pandémie, on s'est beaucoup vu à distance, et on est quand même à peu près chaque semaine au moins 25 à être en séance sur une cinquantaine d'académiciens, et on débat de sujets de société qui concernent, enfin qui de société, oui, la culture est dans la société, des sujets qui concernent la culture, une des grands projets de l'Académie en ce moment, c'est de créer des résidence d'artistes. Ouais. Ça aussi, c'était une bonne découverte. C'est pas un endroit où on s'astique la médaille, j'ai envie de dire.
On s'astique la médaille.
Voilà, non, on se repose pas sur ses lauriers. On s'intéresse à la création contemporaine et à la jeunesse. Et donc, l'Académie possède plusieurs lieux en Île-de-France, deux résidences. Et elle va créer vraiment, elle va s'ouvrir. Et donc, les discussions en séance, c'est ça, entre autres choses absolument passionnantes. Mais c'est quels artistes faire venir, comment les sélectionner, est-ce qu'on va les payer, oui, comment. Etc. Combien de mois de résidence, enfin des questions importantes. C'est vraiment la mission de l'Académie des Beaux-Arts, c'est vraiment soutenir la création. Voilà.
Et alors, d'un point de vue un peu plus intime, je voudrais savoir quel effet a eu sur vous cette élection, quel effet il a eu sur la petite Catherine Meurice qui, à 17 ans, recevait le grand écureuil d'or, prix très convoité de la BD scolaire.
Oui, bien sûr, il n'y a eu qu'un seul écureuil d'or. Il y en a un peu. Oui, bah, oui, bon, c'est comme ça. Je suis tombée l'année où ça s'appelait écureuil. Bon, mais j'aime beaucoup les animaux, donc ça me convient. Qu'est-ce que ça m'a fait? Donc, j'étais très très heureuse, un petit peu débordée d'émotions. Non, l'an dernier, j'avais beaucoup pensé à mes copains de Charlie, en fait, parce que c'est bien sûr c'est la bande dessinée qui est récompensé, honoré, mais c'est surtout le dessin, voilà, le dessin au sens large. Et quand on met le dessin en lumière, je peux pas m'empêcher de penser à mes amis dessinateurs et surtout ceux qui sont partis. Alors, partis brutalement en 2015, bien sûr, Kaby Wolinski, mais aussi à Pétillon, qui est parti en 2018, à Bretéché, qui est parti aussi il y a pas si longtemps. Et voilà, je pense à eux et ça me donne plutôt envie de continuer de travailler. Oui.
Catherine Meurice, depuis vos 17 ans, vous avez reçu de nombreux prix, comme récemment le prix Rodolphe Töpffer de la bande dessinée décernée par la ville de Genève pour l'ensemble de votre œuvre. Est-ce que vous êtes du genre à afficher les trophées que vous remportez dans votre chambre, comme le fait mon fils de 13 ans à chaque compétition de casse-couillerie? C'est une discipline préadolescente qu'il pratique avec un certain succès.
Non, enfin, je l'ai fait quand j'étais ado parce que j'avais eu plusieurs écuries d'or. Pour ainsi dire, j'avais eu le grand écurie d'or, mais avant j'avais eu des petits écuries d'or, parce que c'était les prix nationaux et régionaux.
C'est une ménagerie. Hein.
Et voilà. C'était toute une ménagerie, mais c'était une plaque assez épaisse de plexiglas, et puis il y avait le logo d'une, je ne vais pas citer de marque, mais enfin, en fait, ça s'appelait Écureuil parce qu'il y avait une certaine banque qui finançait le concours.
C'est moi de deviner.
Bon, voilà. Donc c'était ça, et c'est vrai que pendant un temps, j'ai mis ça sur une étagère, mais ça prenait la poussière, et maintenant tout est dans des caisses en carton dans le grenier chez mes parents à la campagne. Voilà, et c'est voilà.
Alors, ce parcours constellé de prix, vous le devez bien sûr à votre talent et à vos professeurs de collège et de lycée qui vous ont poussé à découvrir les grandes écoles parisiennes qui forment à l'illustration. Vous avez eu un choc en découvrant les travaux de l'école Estienne. Étienne, sans le coup de pouce de vos professeurs, que serait devenue la jeune Poitevine qui aimait tant dessiner?
Heureusement que j'ai écouté mes professeurs, mais ça a commencé même au collège, hein, au lycée, c'est-à-dire que j'ai toujours dessiné, j'ai dessiné pour amuser la galerie, et je m'amusais aussi en dessinant. Et c'est vrai que depuis longtemps, mes profs me disaient, mais il faut absolument que tu fasses des études de dessin, et je disais oui, puis en fait j'étais tellement peu sûre de moi, j'ai dit non, en fait je vais faire des études de lettres, je vais faire autre chose. Et finalement, c'était bien, ça voulait dire qu'ils avaient confiance en moi. Et puis finalement, je me suis décidée, à 19 ans, à me réorienter, à aller faire des écoles d'art. Et je n'ai pas cessé de rencontrer des grands, des gens plus âgés que moi, qui m'ont dit, tiens, ça c'est plutôt intéressant, laisse tomber la gouache, va plutôt faire du dessin. Voilà, j'ai eu la chance, je crois, de rencontrer des dessinateurs professionnels ou des professeurs qui m'ont indiqué une voie. Et voilà, et si je ne les avais pas écoutés, que je ferais, j'en sais rien. J'élèverais des
écureuils,
chèvres, je ferais du chabichou peut-être.
Des écureuils peut-être.
Ou des écureuils. Mmh. Peut-être que je soignerais des animaux sauvages, voilà. Oui, je serais vétérinaire sauvage. D'animaux sauvages. Enfin bon, bref, vous m'avez compris.
Eh bien, le dessin y a gagné ce que la protection des animaux y a perdu. Nous allons parler de ce monde de la BD et de votre nouvelle BD, La jeune femme et la mère, avec Charline qui va nous rejoindre dans un instant, juste après Industry Baby. C'est un morceau de Lil Nas X. Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the year, yo, and now we did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they want. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I'll see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches like me dear, yeah. Ayy, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts. Wish he could but he can't get close.
OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say.
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop.
Et Charline Hérault, qui vient de nous rejoindre de cette démarche chaloupée qui a fait chavirer tous les catwalks Picard. Bonjour Charline.
Donc chaloupée en deux mots, hein. Vous ne me prenez pas.
Charline, vous avez lu La jeune femme et la mère, la nouvelle BD de Catherine Meurice, éditée chez Dargo. Emmenez-nous au Japon.
Alors personnellement, j'en serais bien incapable, mais la jeune dessinatrice qui débarque pour peindre la nature fera un excellent guide. Elle y croise un peintre qui cherche lui à peindre une femme mystérieuse, un tanuki à grosse roubignole. Et cette jeune femme évolue aussi dans un décor à la fois proche de celui qu'elle avait fantasmé, mais aussi dévasté par les catastrophes naturelles et les murs de béton érigés pour se protéger. Catherine Meurice, la jeune femme du titre, c'est cette dessinatrice, ou est-ce que c'est cette femme mystérieuse, Nami, qui est liée aux événements naturels?
Non, c'est Nami. C'est pas moi. Enfin, c'est pas moi, déjà. Je dis, c'est mon personnage, il me ressemble, c'est moi et pas moi. Mais... Non, la jeune femme et la mère, c'est Nami, cette jeune femme, donc, qui, en effet, sait lire les cataclysmes, sait prédire les cyclones, les typhons, etc., juste en effleurant la surface de l'eau. Elle est mystérieusement liée aux événements naturels, en effet. Ouais.
Alors, c'est un récit initiatique à la fois extrêmement spirituel et poétique, mais aussi très très drôle quand les mondes se confrontent, que ce soit sur la poésie, sur la bouffe, sur la vie. Alors, puisqu'il est question dans le récit de l'étang du miroir, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre qui vous ressemble beaucoup?
Ah, j'espère. Je suis mal placée pour le dire. J'y mets tout mon amour. Non, je fais ce que je peux. J'essaie de faire le maximum et j'espère que le livre me ressemble.
Mais c'est-à-dire qu'on retrouve toujours cette touche d'humour qui vous est propre, quels que soient les récits que vous avez à mener.
Oui, ça, je peux pas m'éloigner trop de l'humour. C'est vraiment ma façon de voir les choses, d'appréhender le monde, de sans doute de pas trop en souffrir. J'ai besoin de ce décalage. Et l'humour, oui, il permet un décalage qui, comment dire, dans ce décalage, on a un petit peu le temps, on a quelques secondes pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, où est-ce qu'on est dans le monde, qu'est-ce qu'on fait. Et oui, j'ai besoin de ça. Puis comme j'évoque dans la bande dessinée La jeune femme et la mère, je parle de paysages, etc. Ce sont des, ou de nature, ce sont des, comment dire, des grands sujets, on pourrait dire. Bon, s'il n'y a pas d'humour, c'est trop grandiloquent, c'est pas possible. J'ai peur aussi de me perdre ou de m'ennuyer, puis de perdre le lecteur.
Alors, ce nouvel album de Catherine Meurice, La jeune femme et la mère, a sur moi le même effet que la musique de Sakamoto, que nous écoutions plus tôt. C'est un livre qui apporte une forme d'apaisement, qui invite à la contemplation, c'est à la fois grave et léger, parce que avec Catherine, comme on le disait à l'instant, l'humour n'est jamais très loin. Vous avez été sensible à l'humour japonais, parce que c'est pas la marque de fabrique de ce pays par ailleurs fascinant.
C'est-à-dire que petite, j'ai aimé ces fameux dessins animés qui nous venaient du Japon.
Non, mais je parle de l'humour japonais.
Et l'humour japonais. Mais il y avait de l'humour japonais dans ces dessins animés japonais. Et notamment un humour qu'on retrouve aussi dans les mangas de Mizuki, par exemple, que j'aime beaucoup. Et ce contraste entre des personnages très très caricaturaux et puis un décor beaucoup plus léché, très très beau, parfois figé comme pourrait l'être une photo. Mais oui, quelque chose de très grotesque, mais qu'on retrouve dans les dessins d'Okusa. On parle souvent des estampes magnifiques de Kusai. Il faut voir ses croquis. C'est vraiment la caricature. Hein. Reiser est pas loin, quoi. Donc ça, voilà. Là, je m'y retrouve. Oui.
Vous avez écrit le scénario de La jeune femme et la mère en mars 2020. En quoi ce que nous vivions à cet instant précis a influé sur votre récit?
Ah, j'étais très 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 énervée contre nous autres humains arrogants et bon, faut dire que l'anthropocène me fatigue vraiment.
À toute la période.
Oui, tout voilà, tout vraiment
tout l'anthropocène.
Les longues, je crois. Ah, ouais,
les longues.
Oui, oui.
Encore tout à fait fini.
Ah, oui, mais vraiment, je suis fatiguée. Et non, en fait, il y a deux séjours qui ont inspiré la bande dessinée. Un premier séjour donc à la résidence artistique, la Villa Kojoyama, où j'y suis allée il y a 3 ans, et c'était plutôt sous le signe de la beauté. La littérature, la poésie, le dessin, bien sûr, mais voilà, il y avait peut-être un lien avec les albums précédents, les grands espaces, les légèretés. Le deuxième séjour que j'ai fait l'année d'après, c'était sur une toute petite île, Iki, qui est au sud du Japon, et j'y suis allée au moment où le typhon Hagibis dévastait une partie de l'archipel. Donc j'ai senti, j'étais vraiment le jour J, et j'ai vu ce que c'était pour la première fois de ma vie qu'un pays à l'arrêt, des avions cloués au sol, des bateaux qui ne marchent pas, un vent extrêmement puissant, et puis des amis japonais qui disent très calmement, c'est comme ça. Et donc là, ça m'a fait réfléchir. J'ai commencé à réunir un peu les deux sources d'inspiration. Et quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai que pendant la pandémie, on nous a dit, déjà on a constaté que l'arrêt total de l'activité humaine était très très bonne pour la biodiversité. C'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'on nous... Soudain, on s'est souvenu en fait qu'on n'était pas seul sur la planète, qu'on était tout petit et qu'il serait temps vraiment de considérer autrement la nature, de plus la voir comme un objet, mais de se concevoir en relation avec elle. Donc tout ça est arrivé vraiment. C'était un moment de colère en fait cette pandémie, et la colère peut être un bon moteur, ça peut être à l'origine de pas mal de dessins. Donc voilà.
Une expression, un sentiment reviennent souvent au cours du récit. Cette familière étrangeté, face au paysage japonais, c'est aussi ce que vous avez ressenti lors de vos résidences. Comment est-ce que vous l'expliquez, ce sentiment ?
Justement, j'ai du mal à expliquer. Quand j'ai du mal à expliquer, je dessine, je fais une bande dessinée. Voilà. C'est sûr, je suis vraiment pas du tout la seule à dire que quand on arrive au Japon, on est saisi par bien sûr l'exotisme. Hein, tout est différent, tout est opposé, et en même temps, on se retrouve. Il y a quelque chose de très familier dans les. C'est une sensation très étrange, et je l'ai trouvé mieux formulé chez Lévi-Strauss. Parce que je suis allée un petit peu chercher des références un peu sérieuses, et donc c'est là que j'ai trouvé cette expression qui me semblait très juste, où il parle de ce moi inversé. On se retrouve à la fois chez soi au Japon chez soi, mais en symétrie, quoi. Et ça correspondait aussi finalement à mon récit, qui est une traversée du miroir, quoi. C'est une sorte d'Alice au Pays des Merveilles. Mon personnage qui me ressemble, je suis un tanuki, et en traversant la forêt à la poursuite de ce tanuki qui n'est pas un lapin blanc, qui est un tanuki, je traverse le miroir. Donc toutes ces questions m'ont taraudé, et c'est vrai que dans le livre, je raconte une histoire qui est plutôt, c'est une fiction, mais j'en profite pour tenter de répondre à mes questions presque existentielles.
Ouais. Hein. Et à propos d'effet miroir, justement, Catherine Meurice, cette jeune femme et la mère que vous publiez en ce moment me rappelle moi aussi les grands espaces de 2018, hein, et qui évoquait votre enfance à la campagne dans le Marais Poitevin et votre découverte de l'art. C'est deux livres qu'on peut mettre en miroir, oui.
Ah oui, je crois, oui. C'est-à-dire que dans les grands espaces, je m'intéressais à la campagne, et précisément aux paysages ruraux de l'ouest de la France. Et là, dans La jeune femme et la mère, je ne parle plus de campagne, je parle de nature. Donc c'est beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met derrière le mot nature, hein ? Est-ce que c'est le non-humain ? Est-ce que c'est les végétaux, les arbres, un paysage ? Bon, il y a beaucoup de choses. Là aussi, j'explore un petit peu le terme de nature. Et oui, il s'agit aussi de grands espaces. Après, je pense que la BD, justement, Les grands espaces, c'était peut-être un tout petit peu plus mélancolique. Je crois que Mais c'est normal, c'était mon enfance à la campagne. C'est un paradis perdu que je racontais. Là, je crois que je parle de notre situation à nous tous aujourd'hui. Ouais. Je raconte pas un passé, un Japon, pardon. Je raconte pas un Japon du passé. Je raconte aussi un Japon d'aujourd'hui. Puis le Japon, c'est une métaphore. C'est évidemment un pays qui reçoit sur la gueule les tsunamis, les cataclysmes, etc. Mais c'est une métaphore pour parler de nous tous, de tous les pays, quoi. Voilà.
Et puisqu'il en est question aussi dans le livre, est-ce que ce que vous avez vu du Japon au moment de vos résidences coïncidait avec l'image que vous en aviez avant de vous y rendre, de ce que vous en attendiez ?
Pardon. Non, non, j'ai quand même été surprise. J'avais en tête les estampes ou les films de Miyazaki, par exemple, et notamment les décors, hein, ces magnifiques décors et toute cette verdure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté la ville. Enfin, je me suis pas intéressée aux villes. Je suis allée voir la campagne au sud, dans le Kyushu notamment, donc pour voir ces paysages ruraux qui ne sont plus ceux du Poitou, donc qui sont. Mais je voulais voir cette campagne et vérifier que les forêts ressemblaient bien à des tas de brocolis comme dans Miyazaki. Mmh. Donc c'est ça, et en même temps c'est évidemment différent. Et surtout ce qui est saisissant, c'est qu'on parle souvent du couple Japon-nature, enfin de la relation étroite qu'ils ont. Et en fait c'est le Japon, c'est un paradoxe, quoi. C'est un pays qui en effet respecte les armes, etc. Et complètement bétonné par ailleurs, quoi. Il y a des langues de béton, des pansements de béton gigantesques dans les forêts. Enfin, c'est très étonnant. Et justement, j'ai tourné autour de cette surprise-là, et j'en ai fait un récit, quoi, de bande dessinée. Ouais.
Catherine Meurice, avec la jeune femme et la mère, on parle d'un livre où se mêlent des réflexions sur l'art, l'humour, le contact avec la nature, comme vous le disiez il y a quelques instants, et les questions que posent ces représentations et surtout sa résonance en nous. Et ça, dans un Japon d'hier, celui de la vague de Kusai, comme celui plus contemporain d'un Miyazaki. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans le rapport des artistes japonais à la nature ?
Alors, vaste question. Qu'est-ce qui me touche ? Mais c'est tellement différent, c'est ça qui est saisissant. Les perspectives sont différentes, le rapport d'échelle, les techniques sont différentes, la technique de l'estampe, les impressions, enfin tout est troublant, quoi. Donc c'est et puis il y a plusieurs mouvements. Et en effet, Okusai s'est intéressé à la nature, qui était plutôt presque une nature en décor derrière des personnages. Après, il y a au début du XXe siècle des artistes qui ont vraiment mis, un peu comme les impressionnistes en France, qui ont vraiment mis la nature au premier plan, des paysages naturels au premier plan, qui se sont balader dans la nature pour aller peindre. Mais à la fois, il y a une douceur incroyable. Il y a des peintures de Azui, par exemple, qui est moins connue qu'Okusai, mais il y a une douceur, une beauté, et puis en même temps, la violence. On sent que la violence du monde n'est jamais très loin. Et bon, voilà, c'est ce qui m'intéresse dans cet art-là. Ouais.
Alors revenons aux différents compagnons de voyage de la dessinatrice, nous l'appellerons comme ceci, en commençant, vous imaginez bien, par le tanuki à grosse roubignole. C'est une citation littérale. Qu'est-ce que cet animal mi-chien, mi-raton laveur a de particulier, en dehors de ce que je viens de citer? Quelle mythologie lui est associée?
Alors c'est un esprit de la forêt. Il joue énormément de tours aux humains. On en voit des représentations un peu partout au Japon, au pied des maisons, par exemple en pierre ou en céramique, etc. C'est un esprit farceur qui peut parfois être assez emmerdant, mais qui est plutôt jovial et grossier. Mais ça m'intéressait, en fait, de réutiliser cet animal que, par ailleurs, j'ai vu pour de vrai. On parle souvent de raton laveur, mais c'est plutôt un chien vivrain. Et j'en ai vu réellement la scène au début de l'album où j'ouvre la baie vitrée, que je vois passer le tanuki. Je l'ai vécu vraiment. Oui. Ça, voilà, c'était face à mon bureau dans mon studio, la Villa Kujoyama, et il y avait quelques singes, et puis de temps en temps il y avait des tanuki qui passaient, quoi. Cet animal qui est un personnage assez farceur dans la mythologie japonaise, ça m'intéressait parce que pour ce côté farcesque et un peu grossier, un peu vulgaire, qui vient justement être un contrepoint, voilà, dans mon récit, où en effet on va parler de beauté, de nature, de paysage, et j'ai besoin qu'il y ait une petite peau de banane quand même régulièrement, parce que sinon, comme on disait tout à l'heure, je pleurerais d'ennui, j'aurais peur de devenir trop trop sérieuse, et je peux pas, je crois. Donc voilà, le tanuki m'a bien aidée. Ouais.
Et est-ce que vous avez fini par maîtriser, alors je ne veux pas dire de bêtises, le shodo?
Le shodo, non, ouais. Très peu. J'ai vu un.
C'est de la calligraphie.
Oui, j'ai rencontré un artiste, Hiroshi Ueda.
C'est le travail d'une vie, non ?
Oui, exactement. J'ai fait une journée de travail avec lui, et j'étais bien maladroite parce qu'on évidemment tient absolument pas le pinceau de la même manière. On doit le tenir très droit, etc. Et puis là, moi, tout de suite, c'était tout dégueulasse, ça débordait de partout. C'était très, c'était bon.
Le shodo, quand même, précisons-le pour les auditeurs, c'est la manière de tenir ce pinceau.
Oui, c'est l'art de la calligraphie.
L'art de la calligraphie,
avec tout un. c'est magnifique. Enfin, même les objets en fait qui sont associés à cette pratique, les pierres à encre, j'en dessine une dans l'album, les pinceaux. Il existe vraiment des pinceaux en poils de tanuki, en poils de chèvre aussi. Enfin, il y a des différentes qualités. C'est merveilleux de se plonger là-dedans. Et puis c'est bien aussi de pas tout comprendre. C'est ce que je voulais aussi utiliser comme matière, cette semi-ignorance. Je sais que je ne sais rien et je vais en faire quelque chose.
Il y a des pinceaux en poils de roubignol de tanuki.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être des gommes. Peut-être des gommes. Ouais. C'est plus de la gomme. Parce
d'accord.
Que des,
ouais. Okay.
Ce sont des petits poils.
Je ne suis pas étonnée que vous posiez cette question. Bon, c'est un autre. La dessinatrice française veut peindre la nature. Le peintre japonais veut peindre l'expression d'une femme. En quoi est-ce que leurs quêtes respectives se rejoignent?
Et c'est une quête qui est assez floue.
Ben oui.
En effet, moi, je voudrais peindre la nature sans trop savoir ce que recouvre le mot. Enfin, ce qui se cache derrière le mot nature. Et le peintre, lui, veut peindre une femme. Il n'y arrive pas. Il échoue à chaque fois. Oui. En fait, la peinture échoue, mais le haïku advient. C'est-à-dire qu'il arrive à traduire un peu ses. Enfin, la suite de ses chocs d'inspiration, il produit de la poésie.
Choc au sens littéral.
Hein, au sens littéral. Au sens littéral. Certaines bosses surviennent. Ça, c'est un personnage qui m'a été inspiré par un roman de Natsume Soseki qui s'appelle Oreiller d'herbe, qui est un très beau roman sur le. D'ailleurs, Soseki disait que c'était un roman haïku. C'est une narration assez particulière où il y a plusieurs personnages et dont ce peintre qui cherche l'impassibilité, l'évanescence des choses et qui s'éloigne de la montagne. Je suis restée assez proche de ça, puis après évidemment j'en fais autre chose de mon personnage de peintre, mais j'ai gardé cette idée que je trouve très belle, qui est que pendant tout le roman et pendant toute ma bande dessinée, il n'arrive pas à peindre, il y arrivera plus tard à la fin. On ne dit pas pourquoi, bien sûr, on ne va pas spoiler, on ne dit pas comment, mais ça finit par arriver. Et cet état, cette recherche de l'état de peinture, je la raconte avec moult gags à la clé dans La jeune femme à la mer.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Épouse-moi. Non, ce n'est pas une déclaration d'amour que j'avais envie de faire à Catherine Meurice lors de son passage, mais la signification du titre Tinasi Lee d'Albin de la Simone que je vous propose d'écouter tout de suite avant de rembobiner son pop pop pop. Allez, en voiture Simone, enfin, Albin de la.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent.
Tinasi Lee, Tinasi Lee, Tinasi Lee.
Nous n'avons pas connu la guerre, les tranchées dans l'appartement. Pour cela, j'étais bien trop fière. La mort frappait finement.
Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire, que je voulais blanc.
Tinasi Lee, Tinasi Lee, Tinasi Lee, Lady Shelley. Tinasi Lee.
Tinasi Lee dans ce maxi Best Pop, c'est signé Yael Naïm et Albin de la Simone. Albin de la Simone que nous avions rencontré à l'occasion de la sortie de son album instrumental Happy End. Charline, vous avez écouté cet album, Happy End, vous l'avez écouté de la première à la dernière note, la fin est-elle heureuse?
Alors dans les films que je me fais, jamais complètement, et c'est ce que permet cet album, laisser l'imagination vagabonder, un peu comme une BO perso d'un film qu'on a soi-même inventé. Quelle histoire est-ce que vous vous êtes raconté, Albin, au moment de sa conception?
Je me suis pas raconté d'histoire, je me suis raconté des histoires en l'écoutant, après une fois qu'il était fait. Mais non, j'ai vraiment laissé parler la musique, c'est...
Et alors du coup, en l'écoutant, Happy End, ce serait plutôt comédie romantique, western, dramédie, définitivement pas un boulevard, ça c'est sûr, mais...
Non, ouais, peut-être pas comédie romantique, comédie, un truc entre deux, quelque chose de... Mais d'assez peinard, d'assez serein, en tout cas. Je sais que pendant l'enregistrement de ce disque, je me suis donné une interdiction, c'est la tension. Parce que quand on est musicien, on se laisse facilement aller par l'idée de monter un peu, de faire de la tension et de se dire « Allez, on y va !» Et en fait, là, à chaque fois, c'était « Non, j'y vais pas !» Et donc, ça rebondit tout le temps et ça n'y va pas. Et c'était le but de ce disque.
Enfin, ça n'y va pas, ça y va quand même.
Oui, mais oui. Ça, je veux dire, ça monte pas.
Soyez clair.
Vous m'avez très bien compris. Non.
Happy End, c'est votre sixième album qui est sorti sur ce label Tôt ou Tard. Et c'est vous qui avez eu l'idée de lancer cette nouvelle collection, on espère, hein, où des auteurs-compositeurs proposent de la musique sans parole. Pourquoi? Parce que vous en aviez assez quand vous parlez toujours de vos textes et pas assez de votre musique?
Alors, il peut y avoir un peu de ça, mais c'est surtout... Enfin, disons que je trouve qu'en France, on parle pas beaucoup de musique. Quand on sort un disque de chansons, on parle de tout sauf de la musique. Ça me frustrait un petit peu. Mais surtout, ce qui me frustrait beaucoup, c'est que pendant le confinement, je n'ai vraiment réussi à écrire aucune chanson. Et j'ai mis un an à me dire, mais en fait, c'est pas parce que j'écris pas de chansons que je peux pas faire quelque chose. Après tout, je suis musicien. Et donc, de laisser ce flux... servir à quelque chose de musique pure, en fait, sans parole. Voilà, ça m'a permis de réaliser que j'étais musicien, en fait.
Alors, pas de parole, certes, mais des titres, et des titres des plus intrigants, comme ce « Umami ». Un mot japonais, si je ne m'abuse, qui renvoie à ce petit je-ne-sais-quoi dans la cuisine qui rend le tout savoureux, voire délicieux. Quel est-il pour vous, cet « Umami » en musique, j'entends?
C'est une espèce de quête. Imaginez que je vous dise un nouveau goût vient d'arriver. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Umami, c'est un goût qui vient d'être authentifié, mais c'est très difficile, si je devais vous dire, d'imaginer ce que c'est le sucré. Comment on peut décrire le sucré à part par l'expérience? Donc moi, je passe mon temps à essayer de comprendre ce qu'est ce mot umami. Je sais que ça veut dire délicieux, ça veut dire goût délicieux en japonais, mais je le cherche. Donc c'est une espèce de poursuite.
Ça évoque une couleur, non? Aussi le bleu.
Le bleu? Umami?
Umami bleu.
Oh non.
Je tiens quand même
le bleu Nicoletta, vous voulez dire?
Je tiens à préciser là que c'est un Picard. Un Picard, vous êtes.
Ah oui, alors on rebondit sur la Picardie après une blague comme ça, parce que finalement.
Ah bah allons-y, vous êtes en minorité, hein. C'est Picard, la Picardie est là.
D'où êtes-vous?
De Chauny, dans l'Aisne.
Chauny, bien sûr. Et bien la rivière Simone, qui est toute petite, elle est à côté de Vervin.
Oui, absolument.
Voilà.
Ça y est.
Voilà, ouais. C'est vous qui nous avez lancé. Hein.
Alors moi, Umami Blue.
Umami Picardie, bien sûr.
Umami Blue, la Picarde. Non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, ok, vous faites un album uniquement de musique, les mots, vous les laissez de côté, mais j'ai l'impression que la période qu'on a traversée, ce fameux confinement-là, vous a séché du côté du verbe, mais pas du tout du côté de la musique. Comment ceci explique-t-il cela?
Eh bien... Je n'en ai pas la moindre idée. Il se trouve que naturellement, je suis musicien. Je crois vraiment, je suis né musicien et j'ai la musique naturelle. C'est un langage qui, enfin, j'ai souvent l'impression d'avoir une fontaine de musique en moi. L'écriture de texte, c'est vachement plus laborieux pour moi et c'est quelque chose de beaucoup plus dans le travail et dans la redite, enfin, la recherche et la galère. Et ben là, ça a sauté, vraiment. Cet effort-là, j'arrivais plus à le faire. Mais peut-être parce que je ne voyais pas l'horizon pour les chanter non plus, les gens pour les entendre. Alors que la fontaine de musique en moi continuait à couler à flot, quoi, par contre.
Et d'où cette envie de cette collection, cette fameuse collection, que vous inaugurez d'une certaine manière.
Mais oui, mais parce que chez Tôt ou Tard, mon label chéri, il y a Vincent Delerme, il y a Mathieu Bogarts, il y a El Naïm qui sont des vieux copains, qui sont des musiciens que j'aime beaucoup, dont j'aime le langage musical. J'espère vraiment qu'ils vont emboîter le pas.
Enchaîner, ouais.
Et qu'ils vont faire chacun un disque instrumental. Et Vianney et tout ça, après tout le monde peut y aller, quoi. C'est vraiment intéressant, je trouve.
Et alors parlons de la conception même de cette musique, une sorte de vagabondage avec deux mots-clés que je vais vous demander de nous expliquer. Je préviens nos auditeurs, ceci n'est pas un camoulox. Helmut et Ciboulette.
Ah. Ça fait dessin animé un peu.
Ouais.
Alors Helmut, c'est un synthétiseur dont je joue. C'est un Korg de 1974 dont j'ai joué sur peut-être 100 albums de variété française en général. Et qui a à un moment défini vraiment un son qui m'appartenait. On m'appelait souvent pour jouer Helmut. J'en ai joué sur des chansons. La vie ne vaut rien, par exemple, de Souchon. Il y a beaucoup de Helmut. La Ciboulette, c'est une boîte électroacoustique qui est une boîte en bois sur laquelle il y a des ressorts et des tiges. Et notamment, j'ai mis des cordes de guitare en bouquet qui ressemblent à un bouquet de ciboulette. Qui fait que ma fille a eu l'idée d'appeler ça la ciboulette. Et en fait, c'est une machine que je gratte, que je tape, que je frotte. Et ces sons-là sont amplifiés et passent dans des effets. C'est ce qui fait les rythmes de tout ce disque, enfin tous les rythmes de ce disque.
Mais on vous surnomme plus volontiers Helmut ou Ciboulette ?
Ciboulet.
Et puis pour cet album, vous êtes mis en mode aléatoire en procédant par tombola, en tirant au sort des petits papiers qui détermineraient les instruments utilisés, un peu comme Brian Eno ou le peintre berlinois Peter Schmidt l'avait fait auparavant. Est-ce que ces contraintes vous ont aussi en quelque sorte libéré ?
Ouais, comme toujours les contraintes. Enfin, pour moi, en tout cas, les contraintes servent. L'infini des possibles, c'est rien. En fait, on fait rien. Et là, c'était pour me libérer, et c'est une manière aussi de faire entrer autre chose que mon cerveau dans ce disque. Sinon, il y a que mon cerveau. Tout vient de moi. Donc là, c'était un peu, ok, je suis musicien. Si on me dit, joue de la timbale d'orchestre, qu'est-ce que je vais faire avec une timbale d'orchestre? Et ça m'a amené quelque part. Après, si j'avais aucune idée, je me forçais pas. Le truc de, des stratégies obliques de Brian Eno et Peter Schmidt, normalement, c'est, on n'a pas le droit de refuser.
Ouais.
Quand on joue le jeu, on y va à fond. Moi, c'était juste une petite inspiration pour amener autre chose que moi dans l'histoire, quoi.
Et vous accordez une vraie importance aux lieux, en l'occurrence, ceux dans lesquels vous travaillez. Pour Happy End, les studios Ferber à Paris ont été votre refuge. Vous en parlez beaucoup. Qu'est-ce que ce lieu a de si particulier à vos yeux, enfin, plutôt en l'occurrence, à vos oreilles?
Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, il est beau, physiquement. Il est en lambris, enfin, c'est un très bel endroit. Il sonne très très bien. Ce serait, disons, la qualité première pour un studio. Mais il y a un autre truc qui est complètement abstrait et inexplicable. C'est un endroit qui appelle la musique. Quand on rentre dedans, on a envie de faire de la musique. Et la musique sort mieux, elle sort plus riche, elle sort... Et j'ai fait des dizaines de disques à Ferber et à chaque fois, je m'y sens mieux. C'est la taille de salle, c'est les vibrations qui me correspondent. J'entre en vibration avec ce lieu. Il y a un studio qui s'appelle ICP à Bruxelles, qui est un très grand studio, dans lequel je ne rentre pas spécialement en vibration. Va savoir pourquoi.
Albin de la Simone, je parlais de musique qui fait du bien en ouverture de cette émission. Est-ce que c'est aussi parce que notre époque est particulièrement bavarde, au point qu'on a parfois l'impression que les mots finissent par étouffer la musique? C'est un sentiment que moi j'ai parfois. Est-ce que vous le partagez?
Ouais, moi aussi. Par exemple, pendant le confinement, j'avais envie de tout sauf d'entendre des chanteurs comme moi, quoi. Des gens qui me racontent des trucs intimes. En fait, j'envie des trucs intimes et je ne peux pas déjà les partager avec personne. Donc, j'avais envie d'écouter de la musique brésilienne, de la musique que je comprends pas ou des choses très douces. Et c'est vrai que la bavardise et le haut débit, là,
La bavardise.
Est-ce qu'on n'est pas en train de vieillir, mon cher Antoine, tout simplement?
Ça fait longtemps que je me pose la question.
Moi, je me demande.
Non, mais de trouver qu'une époque est trop bavarde.
Ouais.
Peut-être qu'on parle trop, qu'on peut parler meilleure escient.
Ça me parle.
Mais c'est aussi une forme de retour aux sources pour vous. Vous le disiez, la musique instrumentale, c'est votre matrice.
Oui, mais je n'avais jamais trouvé... C'est marrant parce que j'avais jamais réussi à trouver exactement la forme qui me convenait. J'ai fait beaucoup de jazz contemporain. J'étais jamais très à l'aise. Et de la même manière, je dessinais, mais je n'ai jamais su quoi faire quand j'étais adolescent. Et depuis quelques années, j'ai enfin trouvé le chemin du dessin et le chemin de la musique instrumentale. Comme si les mots, le fait d'avoir fait des chansons pendant 20 ans... avait finalement libéré quelque chose et maintenant j'en ai presque plus besoin. Bon, si ce n'est qu'ils sont en train de revenir les mots, mais je me suis débloqué sur deux trucs importants, quoi, la musique et le dessin. Quoi.
Charline parlait tout à l'heure de Happy End comme d'un album qui serait la bande originale d'un film dont l'auditeur serait l'auteur en partie. Ouais. Elle a raison et je crois que la réussite du projet, c'est qu'à travers la simplicité et l'épure, vous laissez toute la place à l'imagination. Vous-même, qu'est-ce que vous écoutez comme musique pour retrouver ce genre d'émotion?
J'en cherche en tout cas. Mmh. J'en cherche et quelquefois de la musique de film. Ouais. Ça m'arrive, mais dans les musiques de film, il y a souvent la scène de baston ou la scène. Enfin, il y a justement la montée en tension que j'essaye d'éviter. Mmh. Il y a la musique de Nils Fram qui marche bien quand il est au piano tout seul. La musique classique.
Une Satie.
Ouais, par exemple, mais pas que. Même du Bach, Ravel, plein de choses, du jazz.
Des musiques qui
laissent de la musique brésilienne.
Cette porte ouverte, où vraiment on peut s'engouffrer et laisser embarquer.
C'est des musiques qui doivent. Je crois que la tension, c'est tout bête, mais quand il n'y a pas de montée en tension, en fait, ça laisse de la place.
Ouais.
Quand ça démarre pas, en fait. Et ben quand ça démarre pas, on démarre autre chose en fait, on fleurit en nous.
Est-ce que ça ne serait pas une métaphore de la situation que nous vivons en ce moment, mon cher Albin de la Simone?
Pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
Bah rien, désespérément rien. Ça. Et est-ce que sur cet album, on trouve aussi des mélodies pour lesquelles vous n'aviez pas encore trouvé le texte, mais qui sont pourtant destinées à devenir des chansons peut-être par la suite?
Ouais, alors c'est marrant, alors là je fais une toute petite boucle, mais je n'ai jamais réussi à écrire un texte sur une mélodie. J'ai toujours écrit d'abord les textes sur une page blanche. Et quand enfin j'avais un texte précieux, le musicien que je suis est plus à l'aise, lui peut faire des tentatives. Mais l'inverse marchait pas. Et là, depuis, par exemple, le morceau Il pleut qu'on a entendu, j'ai écrit un texte dessus. Et il m'appelait un texte et il a fini par... Donc ça va devenir une chanson. Donc finalement, je suis peut-être à un moment important de ma vie d'auteur, qui est que maintenant, je vais peut-être commencer par la musique et continuer par le texte. Ce serait chouette, parce que ce serait une vraie nouveauté dans mon parcours, dans mon rapport intime à l'écriture. Quoi.
Une chanson où il sera question de pluie?
Ben non, par contre, malheureusement, il va falloir que je change de titre, parce qu'il n'y a rien à foutre là.
Le fait de ne plus écrire de texte ne vous pousse-t-il pas à vous inspirer d'autres auteurs? Parce que vous avez annoncé sur Instagram au début de cette aventure vouloir faire un album, je vous cite, « bon pour le moral ». Alors évidemment, tout de suite, on pense à eux.
C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral.
Vous retrouvez là directement l'inspiration de la compagnie créole?
Direct. Non, ceci dit, j'aime vachement le zouk. Mais je pratique pas. C'est un peu comme les gens qui... La définition selon des proches du gentleman, c'est le gars qui joue parfaitement de la cornemuse, mais qui n'en joue pas.
Il évite de le faire, oui.
Alors, pas de compagnie créole, mais un autre monument de la chanson festive est cité dans Happy End, le film qui accompagne la sortie de l'album et qui est dispo sur votre chaîne YouTube, Albin de la Simone. Et cette référence, eh bien, elle est dans l'échange qui suit.
Ouais, mais bon, elle est... le fait qu'une mélodie reste en tête, ça veut rien dire. La danse des canards, ça reste en tête. Vraiment, j'adore la danse des canards.
La danse des canards que vous adorez, donc, première nouvelle, mais une mélodie qui reste en tête, ça ne suffit pas à vous satisfaire. Alors, qu'est-ce qui vous rend un morceau acceptable, voire agréable?
Alors là, j'en ai pas.
Oui, on est parti de la danse des canards, hein, pour arriver là.
Hein, Non, qu'est-ce qui la rend agréable? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que je l'aime? Aucune idée.
Mais vous aimez la danse des canards?
Non, mais j'aime la danse des canards. On peut aimer la musique à différents niveaux, mais la danse des canards, c'est une arme que j'utilise quand... Maintenant, on peut mettre de la musique sur les chaînes IFI des copains ou dans la chambre de ma fille. Alors, il m'arrive de réveiller ma fille avec la danse des canards à fond. Ce genre de truc.
Bon, moi, j'adore la chorégraphie des canards. Dans Happy End...
Vous pouvez la faire pour franceinter.fr, comme on est filmé.
La chorégraphie des canards?
La danse des canards.
C'est très simple.
Ah, merci.
Vous mettez debout.
Ok.
Ah, il le fait bien.
Ah ouais, non, mais c'est pas la choré.
Ah non, il y a un truc avec les coudes, normalement.
C'est pas la choré officielle,
pardon. Non, c'est la coude, ça.
En s'agenouillant. Non, il la connaît pas du tout, il fait n'importe quoi, on est d'accord.
En Picardie, c'est pas comme ça qu'on fait la danse des canards.
En Picardie, vous ne faites rien comme les autres,
justement.
Bon, revenons à Happy End avec le morceau Soleil, en intro.
Je crois que l'émission est visible, elle est en replay.
France Inter.fr, bien sûr, évidemment.
Si vous voulez voir ça.
Cet album, écoutez-moi, je suis sérieux. Cet album s'ouvre avec ce morceau qui s'intitule Soleil.
Ça, c'est la ciboulette qu'on entend, le rythme, la ciboulette dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui, elle est goûtue. Et ce morceau, Soleil, il nous plonge dans une espèce de western en slow motion, un Ennio Morricone qui serait passé de 45 à 33 tours.
Ah oui ?
Oui, absolument.
Ah, chouette.
Est-ce que vous avez profité du confinement pour vous replonger dans ce genre d'univers ? Ou pas du tout ?
Oui, j'ai jamais arrêté en fait d'écouter Ennio Morricone et j'ai lu un petit peu de ça. Il y a eu un livre avant sa mort d'interviews croisées qui est intéressant. C'est quand même un mec vraiment intéressant et même passionnant. Et l'emploi de la balle de ping-pong, de certains sons. En fait, j'ai découvert en faisant de la musique instrumentale qu'il y a une question très épineuse qui se pose quand on fait de la musique instrumentale. C'est quel instrument pour jouer la mélodie? Quand il n'y a plus la voix, vous la jouez au piano. Bon, ok, mais tous les morceaux sont, on va pas tous les jouer au piano. Donc, avec quoi? Une guitare, un banjo, une épinette. Et c'est là qu'on se met à être créatif et que Morricone est hallucinant.
Et alors, puisqu'on parle de musique de film, j'en profite pour rappeler que vous pouvez toujours voir en salle cette petite merveille de film animé qui est La Vie de Château de Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Hachlimi, dont vous avez composé la BO, Albin. Est-ce qu'on compose différemment à hauteur d'enfant ou au contraire, est-ce que vous faites constamment appel à l'enfant qui est en vous quand vous travaillez, quand vous composez ?
Ouais, je répondrai la réponse 2. Elle est parfaite.
toujours l'enfant qui est là.
Oui, oui, parce que je vois pas l'intérêt de se mettre à hauteur d'enfant. Les enfants, il y a pas de musique pour enfants. Je trouve ça chiant la musique pour enfants en fait. Enfin, quand elle est faite pour les enfants. Ce dessin animé est super et va devenir une série. Donc il va y avoir 6 épisodes et c'est vraiment chouette. Ça me touche beaucoup.
Et vous parlez ici d'un artiste qui a enregistré certes dans le studio Ferber, mais aussi dans la chambre de votre fille, si je ne m'abuse.
Ah oui. Bah, ma fille était en vacances quand je suis revenu du studio Ferber. Quoi, bien sûr.
Non.
Vous en doutez. Ma fille de 10 ans était en vacances et je suis revenu du studio Ferber et j'ai installé une sorte de salle de montage dans sa chambre et pour pouvoir m'isoler un peu et quelques instruments. Et c'est là que j'ai dérushé ce que j'avais enregistré à Ferber. Et comme on le disait hors antenne, quand on revient d'un tournage ou d'un studio et qu'on ouvre les choses à la maison, d'un seul coup, il n'y a plus la magie du studio, on retombe un petit peu. Et c'est là que j'ai fait le tri, que j'ai enlevé tout ce qui n'allait pas et que j'ai rajouté quelques mélodies.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine de Caunes.
Merci Albin de la Simone. Terminons ce Pop 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 en musique avec Jackie Down the Line de Fontaines D.C. Fontaines D.C., Jackie Down the Line, dernier morceau de ce maxi Best Pop avec Catherine Meurice et Albin de la Simone. Je rappelle que la dernière BD de Catherine Meurice s'appelle La Jeune Femme et la Mère et elle est éditée chez Dargo et elle est plus que recommandée par Pop Pop Pop, tout comme l'album d'Albin de la Simone qui, lui, a pour titre Happy End et je n'ai pas de meilleur mot pour la fin.